cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Yann Aboukoff.
Bonjour.
Vous publiez chez Lyrinx un nouvel album qui s'intitule Yambo. Alors c'est un grand voyage on pourrait dire, puisque en termes de répertoire, en termes de destination, il est sous-titré de Napoli à la Habana, de Sofia à New York. Le périple est long, le répertoire est éclectique. Ça ressemble un petit peu, je pense aussi, peut-être à vos goûts, j'imagine.
Ça résume un petit
d'une certaine manière.
Jusqu'à présent, ma carrière, on va dire. Oui.
Comment est né ce projet? Alors, faut dire que vous n'êtes pas seul. On n'entend pas juste votre voix, on entend également du piano, celui de Daniel Weinberg, qui vous a déjà accompagné.
On fait un joli partenariat ensemble. En effet, on est un duo un peu atypique. Lui avec ses 85 ans bientôt, et puis moi un peu plus jeune, on va dire, sans donner la précision. On s'est rencontrés il y a quelques années lorsque mon grand-père, qui était pianiste également, nous a quittés, et c'est lui qui a pris cette petite place sentimentale et artistique. Et puis c'était juste pour un remplacement. Sur un coup, et puis finalement on est devenus amis, et finalement malgré notre écart générationnel et puis nos différentes cultures, parce qu'il est d'origine hollandaise et moi un peu plus slave et marocaine, un petit peu bordélique, mais finalement sur scène on voit qu'on n'a pas d'âge, que ce sont les âmes qui se réunissent, et puis on a réussi justement, de par nos différences, à faire un album qui est un peu original, un petit peu à part, et qui résume un peu notre folie et notre ouverture d'esprit.
Comment elle s'est dessinée, cette feuille de route? C'était quoi l'idée au début? Vous avez commencé à trouver des compositeurs, des
Alors,
thèmes?
Alors l'idée au début, c'était finalement de se faire plaisir et d'essayer de graver des moments que nous vivions sur scène. Donc à travers ces mélodies folkloriques bulgares, la Bulgarie fait partie de mes origines, j'ai voulu bien sûr rendre hommage à ce pays que j'aime et à cette culture dans laquelle j'ai été noyée carrément. Quant à Cuba, ce sont des mélodies qui sont absolument géniales, qui se rapprochent quand même de l'Amérique et de Gershwin, que nous adorons particulièrement avec Daniel, qui est brillant dans ce domaine-là. Il n'a pas voulu justement lui accentuer son côté jazzman, parce que c'est un vrai pianiste classique, mais... Voilà, quand on aime, on peut pas avoir de limites. Et les chansons napolitaines sont des chansons d'amour qui se rapprochent plus finalement du répertoire de l'opéra, mais qui restent dans le domaine du folklore tel qu'est le thème de tout le disque finalement.
C'est important pour vous de tremper votre voix dans des matières musicales vraiment assez différentes, voire parfois un peu opposées ou autres?
C'est, pour moi, en tant que chanteuse d'opéra, c'est primordial. C'est-à-dire que je veux pas qu'on se mette martel en tête en se disant que voilà, on ne chantera que Carmen, que les Noces de Figaro, etc. C'est primordial d'avoir aujourd'hui, au XXIe siècle, avec tout ce qui se passe comme évolution technologique et artistique, de pouvoir justement toucher un petit peu à tant de répertoires différents, avec malgré tout quelqu'un qui, comme Daniel, a reçu une éducation très très classique, très très stricte, et qui m'inculque finalement un petit peu de sa folie aussi, malgré son âge et sa génération.
C'est un éclectisme que vous avez eu en vous toute petite, quand vous avez commencé à chanter,
même avant. Parce que, alors, en deux mots, mon père est d'origine serbe, ma mère est marocaine, ma grand-mère est égyptienne et mon grand-père est russe. Donc voilà, je suis le
pas le choix déjà.
Voilà. Et alors du coup, on n'a pas le choix que d'être un petit peu ouvert d'esprit et finalement à vouloir ne pas se recroqueviller que dans une seule racine, mais aimer finalement toutes ces racines très différentes. Et du coup, on a une ouverture d'esprit peut-être différente, je dirais pas plus élaborée, mais différente quant à vouloir découvrir un très très large répertoire.
Ça peut être plus complexe, surtout au début quand on commence, ou pas spécialement. Finalement, on fait avec parce que
on fait avec. On fait avec. On est obligé finalement quand on arrive, je pense, à un certain niveau, à passer par des bases classiques malgré tout. J'ai pas eu de cours de jazz ni de d'improvisation comme beaucoup de musiciens l'ont aujourd'hui, parce qu'à l'époque c'était pas encore très à la mode. J'ai eu un cursus très très classique avec harmonie, contrepoint, composition. J'ai été dans des chorales professionnelles quand j'étais enfant, et puis en faisant 5-6 heures de piano par jour parce que mon grand-père derrière me serrait la vis et j'en pouvais plus. Quand j'étais adolescente, j'avais juste envie de me barrer au cinéma, bien évidemment, comme toutes les ados. Et finalement, aujourd'hui, je le remercie d'avoir insisté lourdement auprès de moi et d'avoir voulu justement à ce que je puisse aller jusqu'au bout de chaque matière, finalement. J'ai une fille qui est une adolescente qui commence la guitare, qui finit 6 mois après parce qu'elle en a marre, parce que le prophétie, parce qu'elle n'a pas le temps. Et voilà, et ça fait depuis 4 ou 5 ans qu'elle essaye comme ça plusieurs instruments. Mon grand-père a finalement tenu à ce que j'ai mon prix de piano, que j'ai mon prix de solfège, et après il m'a dit « tu feras ce que tu voudras, mais au moins tu auras ça ». Et finalement il a eu raison, parce qu'à 20 ans j'ai pu, avec un bagage professionnel, choisir vraiment la direction dans laquelle je voulais m'épanouir et me faire plaisir. J'ai la chance d'avoir un métier qui est une passion, et inversement. Et finalement, le matin, quand je me lève pour aller à une répétition avec orchestre, ou à un studio d'enregistrement, ou à une interview, c'est un régal.
Comment on gère justement cette donnée quand la transmission de la musique l'est par quelqu'un de sa famille ? C'est-à-dire que ce qui reste aussi quelqu'un de sa famille quand on arrête de parler de musique, quand on parle d'autre chose, mais est-ce qu'il y a une particularité ? J'imagine qu'on s'en rend compte ? Est-ce qu'on s'en rend pas compte ?
Au quotidien, on s'en rend pas compte. Et finalement, on s'en rend compte quand la personne n'est plus là. Et c'est pas dommage. J'en ai profité, bien évidemment. J'en ai usé et abusé de toutes ces qualités que Yuri m'avait apportées. Maintenant, je me rends compte que j'en jouis régulièrement, quotidiennement, à travers différentes expériences professionnelles, parce que c'est lui qui m'a guidée, finalement, qui m'a menée dans la voie, qui m'a donné aussi la patience, l'indulgence, l'autodiscipline, pour ne pas être trop gourmand quand des contrats arrivent à profusion, et de vouloir tout accepter parce que c'est intéressant ou que c'est amusant. C'est dangereux aussi. Physiquement, vocalement, professionnellement, on ne peut pas tout accepter. Il faut savoir trier non pas les bonnes des mauvaises choses, mais les choses qui pourraient vous apporter ou dans lesquelles nous nous accomplissons finalement jusqu'au bout. Tous les jours, il y a des propositions qui sont sympas et intéressantes. Le danger, c'est de tout accepter et finalement de ne pas faire un tri honnête avec soi-même.
Aujourd'hui, avec le recul, quand vous faites le tri, j'imagine que tout ce qu'il a pu vous transmettre, il y a une liste serait sans doute longue, et peut-être parfois des choses qui sont même peut-être difficiles à exprimer. Est-ce qu'il y a quand même certains éléments, certaines choses, que ce soit dans des conseils ou dans des instants par rapport à des phrases qui représentent des choses qui restent quand même,
oui,
placées un peu au-dessus?
Il y a des détails qui restent, comme lors de l'apprentissage, par exemple, d'une œuvre, il m'a toujours expliqué, et aujourd'hui d'ailleurs avec d'autres personnes de sa génération, je le comprends de mieux en mieux, que le compositeur, finalement, dans une partition, a tout écrit. On se l'approprie, on l'interprète, on la déchiffre, on la lit, on la chante, on la rechante en concert ou chez nous en répétition. Et finalement, quand il y a un blocage, c'est que nous n'avons peut-être pas compris jusqu'où voulait aller le compositeur. Et revenir à l'essence même, finalement, de l'écriture, de se poser, d'ouvrir la partition et de lire comme un livre, finalement, ce qui est écrit, que ce soit dans le livret lorsqu'il y a un texte, ou dans le poème, ou alors simplement dans la partition. Et l'alliance des deux fait que le résultat est devant vos yeux, que par moment dans la vie, on n'est pas peut-être apte à découvrir certaines choses, et que la maturité ou l'expérience dans la vie fait que quand on revient sur une œuvre quelques temps après, même des années après, on la comprend différemment. On cite généralement les livres qu'on lit dans notre enfance, par exemple le Petit Poucet, qui finalement a des messages différents sur chaque génération. Des livres comme Le Petit Prince, c'est pareil aussi. On développe un instinct de compréhension qui est différent à chaque âge, j'imagine.
Quand vous êtes engagé dans une carrière professionnelle, est-ce qu'il y a eu une crainte de porter justement votre nom, qui déjà était déjà ce nom de Boukhov, qui était déjà ancré dans la sphère classique ? Est-ce que c'est un avantage, un inconvénient ? Ça fait peur ? Comment ?
C'est un challenge finalement au début de la carrière. Bien évidemment qu'on me pose tout de suite De tous les jours la question de savoir quel est le lien avec cette personne. Je suis pas du tout lassée, j'ai pas le syndrome de fils ou fille d'eux, j'en suis très très fière. Et puis c'est mon grand-père, il m'a élevée comme un père, parce que j'ai habité vraiment avec lui et ma grand-mère. Donc, je les considère encore plus comme mes parents, que mes propres parents, finalement, parce que j'ai eu que dans ma vie. Maintenant, il y a ce challenge, finalement, de maintenir le niveau et de maintenir le c'est pas prétentieux, l'élégance du nom que lui a créé dans sa vie durant. Et je pense que toute la famille est à même. J'ai un frère qui est musicien aussi, qui honore régulièrement son nom de famille. Moi également, j'espère que ma fille le fera. Son épouse le fait aussi de son vivant, parce qu'elle est écrivain, elle est romancière. Donc, on a tous créé finalement une petite micro-mafia autour de ce nom, et qui finalement n'est pas une comment dire, une manière d'être reconnu. C'est une décision sage, familiale, pour continuer à respecter l'œuvre qu'il a faite durant toute sa vie.
Assez rapidement, vous avez consacré pas mal de temps à la musique de chambre. C'est un choix qui s'est imposé à vous. C'était une évidence. C'est venu par hasard. Comment...
C'est une évidence. On revient toujours finalement à Yuri, qui, moi, toute mon enfance, je n'ai traîné, entre guillemets, qu'avec des grands noms tels que Gitlis, tels que Giaourov, Gyuzelev et des Fontana Rosa et des Poulets. Donc voilà, pour moi, ce sont les amis de la famille qui ont fait partie régulièrement des moments et musicaux et amicaux autour de Yuri. Et du coup, j'ai vu avec Yuri le partage à travers la musique qu'on pouvait avoir amicalement avec ces personnes-là, qui ne sont finalement pas que des collègues, qui deviennent à travers la musique et à travers les sensations fortes qu'on peut avoir sur scène, qui deviennent pas forcément non plus des amis, parce que malheureusement, on ne peut pas voir ces personnes autant qu'on le voudrait, et réciproquement. Quand on sort, par exemple, d'une tournée, on passe 2 semaines avec des musiciens et on se dit que voilà, dans 1 semaine, on va redîner ensemble parce qu'on a passé des super moments ensemble. Et finalement, ça n'arrive quasiment jamais, parce que nos emplois du temps, nos priorités sont différentes. La musique de chambre, pour en revenir à ce sujet, est pour moi très importante, parce que d'abord, le répertoire me plaît énormément. Voilà, il n'y a pas que l'opéra qui me plaît. L'opéra, c'est extraordinaire, et ses compositeurs ont réussi à faire en sorte justement d'avoir la capacité de à travers la musique, d'avoir su mettre et la mise en scène et la couleur et le volume et les reliefs à travers l'orchestre, le metteur en scène et les musiciens. Maintenant, la musique de chambre, pour moi, est un défi qui est peut-être même plus important par moment que l'opéra, c'est-à-dire qu'on est seul face à la partition, avec un ou d'autres partenaires sur scène, mais nous, en tant que chanteurs, nous devons faire les décors, les couleurs, les reliefs, les costumes, la mise en scène, la description, tout. Avec quoi ? Un texte que 50% parfois de la salle comprend, si on chante en allemand, en tchèque, en russe, en... Hein. Et c'est à nous, finalement, de faire découvrir cette ambiance, cette couleur, cette histoire de A à Z, et de voir si on arrive à, malgré le fait que les gens ne comprennent pas mot à mot ce qu'il est dit, à voir s'ils ont le frisson ou s'ils comprennent ce que j'ai voulu leur suggérer.
dans cet océan de ce que le rébellion répertoire sont larges. Là aussi, vous avez aussi bien mélodie française, musique espagnole, vous aviez consacré
un premier CD.
Comment c'est arrivé? Vous avez picoré un peu partout, vous aviez envie, vous aviez des phases quand vous êtes lancé vraiment là-dedans?
D'abord, au début, quand on choisit finalement quelques répertoires, on essaye de se caler à notre tessiture. Ensuite, c'est le sentiment qui parle, c'est le cœur qui parle, s'approprier une œuvre. Bien évidemment qu'il y a des milliards d'œuvres de musique de chambre, et jusqu'à présent, j'ai pas une préférence particulière pour une région ou pour un compositeur, que ce soit du De Falla, du Berlioz, du Dvorak, du Schubert, du Mahler, du Grieg, du Wagner, peu importe. J'ai la chance de parler quelques langues qui font que j'assimile peut-être plus rapidement la musique et ce qu'a voulu dire le compositeur, mais je marche au coup de cœur, et j'ai la chance jusqu'à présent, lors de mes engagements en récital, de pouvoir non pas imposer mais suggérer un programme qui me plaît, et finalement les personnes comprennent que quand l'artiste sur scène a choisi son programme, bon, il y a quelques pourcentages en plus qui vont vous faire croire que le concert sera bien parce que l'artiste sera bien sur scène. Quand on m'impose, c'est un autre challenge, c'est une autre opération, et ça m'arrive bien évidemment de tomber amoureuse aussi de l'œuvre imposée. Mais ça prend un peu plus de temps, finalement, que de moi-même, par exemple, donner un programme intégralement russe dans quelques temps, qui, en plus, fait partie un petit peu de mes origines, et qui me parle, qui me chante du soir au matin. Je me régale de A à Z dans ce programme-là.
Dans les différents complices chambristes que vous avez eus, parlez-nous un peu de la spécificité de Daniel Weyenberg, et notamment par rapport à, au-delà peut-être de la complicité, enfin une amitié, etc., plus par rapport à votre voix. J'imagine qu'à chaque fois que vous vous trouvez avec des complices différents, comment évolue votre voix quand elle se retrouve au contact de son piano?
Alors c'est vrai que j'en parlais justement hier avec Daniel, la voix évolue différemment selon les personnes avec lesquelles nous sommes sur scène, parce que toutes les amitiés sont différentes et tous les rapports humains sont différents. Par moment, en effet, on m'impose des pianistes avec lesquels tout de suite ça colle très très bien et on sait que ça va fonctionner. Et puis par moment, on a nous-mêmes quelques soucis dans la vie privée et qui font qu'on n'est pas à même de découvrir la personne. Avec Daniel, l'opération est bien différente. Avec Daniel, il y a d'abord le rapprochement qu'il avait avec Yuri qui me tient à cœur. Quelqu'un qui encore a connu Yuri pendant 50 ans, qui m'en parle des anecdotes que je ne connaissais pas de son vivant. Et puis ce personnage exceptionnel qu'est Daniel, qui est plus jeune que vous et moi, et qui, malgré ses 85 ans, croque la vie à pleines dents, joue du soir au matin, il joue 5 heures de piano par jour encore aujourd'hui, se couche à 2 heures du matin après avoir regardé soit un opéra, soit un match de foot, soit avoir joué pendant 4 heures sur l'ordinateur, a une vie complètement déréglée d'artiste. C'est le premier debout quand on est, par exemple, en tournée en Norvège, à aller faire les excursions, et puis aller faire un poker après, puis aller fumer une cigarette sur le pont du bateau, et refaire une excursion, puis répéter à 4 heures du matin, parce qu'il n'est jamais fatigué. C'est une force de la nature.
C'est un carburant pour vous aussi, j'imagine.
C'est vraiment un moteur essentiel, en me disant que on arrive de toute façon, peu importe l'âge, à continuer à aimer faire de la musique. On n'est jamais blasé, on n'est jamais lassé, et on peut faire peu importe la même œuvre. Quand on l'a fait à 20 ans, on la fera différemment à 50 ans et encore différemment à 85 ans. Et c'est une approche différente selon bien sûr nos expériences, mais la partition est toujours là, et sa sagesse, malgré sa folie, fait que c'est une trame qui est très essentielle. C'est un fil rouge entre lui et moi. On peut faire les guignols sur scène pendant un quart d'heure avant la représentation, mais au moment où l'œuvre commence, on est là pour le compositeur et pour les gens qui sont venus nous écouter. Et pour nous, on n'est finalement qu'un simple relais de ce que le compositeur a écrit. Si on arrive à faire comprendre à l'auditeur un minimum de ce que nous, on aurait compris finalement face à l'œuvre, c'est déjà énorme. Et puis, une fois que les applaudissements commencent, Daniel et moi, on est re-Daniel et moi, c'est-à-dire pas les simples interprètes de Dvorak, mais nos propres personnalités, et qui nous adorons, qui nous respectons, et qui pouvons bien évidemment nous piéger régulièrement dans des dans des farces, dans des blagues, peu importe, ça paraît un petit peu vieux jeu, mais voilà, on fait vraiment un... C'est pas un numéro, parce que c'est pas non plus quelque chose qui est écrit, mais c'est un duo, c'est un vrai duo, ce qu'on appelle un duo. C'est-à-dire, c'est pas une mise en scène, il n'y a pas quelqu'un qui nous a demandé de faire ça, ça et ça avant ou après l'œuvre. Mais voilà, c'est une complicité, une amitié, c'est pas de l'amour, mais c'est plus que ça, finalement. Parce que c'est un sorte de couple qui n'en est pas un, c'est sentimental, c'est surtout très respectueux. Et il me respecte autant que je le respecte, finalement. Ça, on pourrait croire que moi, à mon âge, et lui, à son âge, je suis bien évidemment devant lui comme une élève. Et non, on est deux identités très différentes et finalement qui sont tout le temps à 50-50. Mmh.
Vous êtes retrouvé dans des contextes aussi symphoniques. Oui. Vous avez croisé des prestigieuses baguettes, comme on dit, des Ozawa, prêtres, ouais, etc. Est-ce que, quelles sont justement les rencontres qui vous ont le plus marqué ?
Il y en a beaucoup, heureusement, mais une des jolies rencontres, c'était quand j'ai chanté sous la baguette de Eliaou Inbal, quand on a fait un enregistrement. J'étais donc soliste dans les chœurs professionnels d'enfants, et puis on était en effet à faire la symphonie des Mille, donc Mille sur scène avec Eliaou Inbal au théâtre des Champs-Élysées, et c'était fulgurant parce que c'est rare de vivre des instants comme cela. Après, il y a eu Seiji Ozawa, en effet, qui nous a dirigés dans Honegger. Après, il y a Kurt Masur aussi qui m'a dirigé. Bah, c'est des expériences uniques, et puis on sent des complicités qui sont pas qualifiables, qui sont pas définissables, qui ne sont pas palpables. La musique fait qu'on n'a pas besoin finalement de mots quand ça fonctionne. Quand la musique s'arrête et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on en parle, il n'y a aucun problème. Mais voilà, ce petit moment magique qui n'est absolument pas qualifiable, que je pense tous les musiciens sur scène comprennent aujourd'hui, mais on peut pas donner de mots et d'adjectifs réels. C'est juste magique, c'est à travers la composition. J'ai chanté récemment à Saint-Domingue, en République dominicaine, avec un très jeune chef d'orchestre qui s'appelle Ramon Tebar. J'ai remplacé une chanteuse. Je suis partie vraiment le lendemain du coup de fil de mon imprésario. Je suis arrivée là-bas et il fallait qu'on chante Carmen et le barbier de Séville, et puis un quatuor de Don Juan, et puis un quatuor de la rondine de Puccini. Bref, il fallait que j'apprenne toutes ces partitions très très vite. Et puis j'avais bien évidemment une grande partie de solo. Et finalement, lui qui connaissait très bien la partition, moi qui la connaissais très bien, on a eu besoin que d'une demi-répétition pour arriver sur scène et se dire que, au final, oui, Samson et Dalila, Carmen et les autres airs étaient juste magiques, et c'était suspendu dans l'air et pas qualifiable et peut-être pas compréhensible pour d'autres qui n'étaient pas à ce moment-là sur scène.
Je parlais tout à l'heure de votre album consacré à la musique espagnole. Qu'est-ce qui vous touche dans cette musique un petit peu parfois bannie dans la sphère classique ou un peu vite étiquetée et caricaturée, même si...
Oui, caricaturée comme chanson populaire, parce exactement. Que en plus ça s'appelle chanson populaire. Peut-être que déjà, d'emblée, on met ça dans un petit tiroir en se disant, bon, c'est facile à chanter, c'est facile à interpréter, c'est facile à écouter. Mais bon, pour en arriver, je pense, à pouvoir interpréter des choses de façon populaire, il faut arriver à un professionnalisme réel. C'est des choses qu'on ne peut pas donner à des étudiants qui ont 14, 15, 16 ans, sous prétexte que ça s'appelle chanson populaire ou chanson de rue. Mais on est obligé finalement d'arriver au bout d'une expérience professionnelle et d'une scolarité et d'un apprentissage du répertoire pour pouvoir finalement ensuite retourner à l'essence simple de ce qu'a voulu faire De Falla, par exemple, dans ses chansons populaires. Il s'est inspiré de chansons qui existaient déjà, tout ce qui est Jota, Tonadilla, ses compagnies, pour ensuite les mettre en musique pour piano et voix d'abord, qui ont été retranscrites pour guitare, ce que j'ai fait avec Emmanuel Rosfelder. Mais pour arriver justement, voilà, c'est comme lui, pour arriver à cette excellence de simplicité de partition, il faut avoir fait bien évidemment tout ce qui en amont est primordial. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de prendre un jeune compositeur de classe élémentaire en se disant, voilà, compose-moi une chanson de base qui pourrait être éventuellement intitulée chanson de rue et puis tu verras que dans 15 ans, ça sera le grand succès. Non, ça c'est Mozart, voilà, est l'unique, je pense, avec Bach, qui ont réussi d'un très jeune âge à faire des œuvres exceptionnelles jusqu'à la fin de leur vie. Et sans Mozart et sans Bach, aujourd'hui, on ne serait pas de toute façon ce que nous sommes, nous, en tant que musiciens et interprètes, et les compositeurs non plus. Mais il y en a quelques-uns comme ça qui sont exceptionnels et qui sont des génies. Mais les autres, voilà, il faut arriver à une maturité stable, on va dire. Pas à un point de génie, à une maturité stable pour pouvoir ensuite arriver à faire des choses basiques telles qu'en effet des chansons populaires et des scènes de vie qui sont amusantes, qui sont redondantes, qui sont finalement très très claires quand on lit la partition en se disant ça a l'air très simple, c'est très évident, mais De Falla derrière des années d'expérience et de chef-d'œuvre pour arriver à ça, je pense.
Quand on aujourd'hui, quand on aime aussi bien chanter de la mélodie française que espagnol, Gershwin, etc. Elles arrivent comment, les partitions, entre vos mains? Vous continuez, vous picorez, vous avez des envies, ça se fait au hasard? Comment
ça se fait? Ça se fait finalement au hasard quand j'ai la chance. Aujourd'hui, on a la chance finalement avec Internet aussi de pouvoir trouver, dès qu'on entend une musique, hop, on arrive avec une application à retrouver la musique et ensuite à retrouver la partition en 2 minutes. Donc c'est moins de recherche qu'il y a quelques années, mais on marche au coup de cœur. J'ai la chance de pouvoir encore aujourd'hui marcher au coup de cœur et de finalement chanter ce que j'aime. Après, il y a des commandes, mais voilà, ce qu'on aime et ce qu'on déchiffre, on sent tout de suite qu'on a envie de l'approfondir. Et puis ce qui nous passe un petit peu au-dessus, malgré le fait qu'on nous dise mais tu vas voir, cette mélodie est très très belle ou cette œuvre est très belle, si on la sent pas, on la sent pas, on la sentira peut-être dans quelques temps. Mais pour le moment, en tout cas le disque en l'occurrence, le Yambo, était en effet un réel coup de cœur avec Daniel. On n'a pas voulu à tout prix faire découvrir un répertoire des plus éclectiques. Il est très éclectique, mais il fait partie de mon répertoire. C'est ça finalement qui est le lien avec Daniel et le disque, c'est que lorsque la maison Lyrinx nous a entendus en récital, René Gambini est tout de suite venu vers moi et Suzanne aussi pour me dire voilà, un tel répertoire, quand on arrive dans un récital, dans un récital privé à Marseille où il y a de la chanson cubaine, il y a du De Falla, il y avait du Dvorak, il y avait du Wagner, il y avait du Grieg, enfin c'était un bordel sans nom. Et finalement, qui n'avait aucun fil conducteur, si ce n'est le fait d'aimer toutes ces œuvres-là. Et puis René Gambini en a tiré finalement quelque chose de très ludique, de très original. Je ne peux pas dire marginal, parce que finalement, ça reste des compositeurs classiques. Maintenant, voilà, des chansons napolitaines qui ont été chantées depuis des générations et des générations en Italie, dans la rue, et qui voilà, ont été retranscrites par Paolo Tosti, et qui font voilà, comme ça un petit bijou dans le disque. Et c'est pas... Ce sont que des coups de cœur et des joies pour Daniel et moi que d'avoir enregistré, en tout cas en l'occurrence, ces œuvres-là.
Même si le disque sort juste là, vous avez déjà des envies éventuelles de répertoire enregistré? C'est pas ça qui manque.
Ça y est, on est reparti. Mais vous savez, le jour
deux.
Voilà, c'est ça. Mais même deux, trois. Voilà. Alors moi, j'aimerais, bien évidemment, j'ai un projet d'enregistrer maintenant un disque avec orchestre d'air d'opéra.
Mais vous avez un répertoire précis en tête par rapport à ça ou...
Pas précis, parce que malheureusement et heureusement, je chante beaucoup de choses et du coup, ça va être très difficile. Le temps de réflexion autour du programme va être très difficile. Mais j'ai pas envie de faire, pour le moment, de l'opéra dramatique. Je suis un tout petit peu encore trop... jeune, c'est pas du tout le mot, parce que je suis pas trop jeune, mais je suis un peu trop encore amusée par tellement de répertoires... et ludique et romantique et sensuel, que le dramatique je vais le garder pour un peu plus tard, et j'ai la chance en tant que mezzo de pouvoir chanter un peu plus longtemps du dramatique, donc pour le moment je vais m'amuser avec quelques Carmen, quelques Rossini, quelques Dvorak, tels que je les adore et tels que j'adore les interpréter. D'autres projets avec Daniel, on aimerait faire un disque que de musique française. Je vous en dirai un peu plus tard, parce que on essaye bien évidemment de préserver aussi quelques idées géniales pour nous. Et puis peut-être un projet aussi de musique un peu plus de l'Est. Voilà, de musique de l'Est. Alors là, bon, pour les compositeurs, il n'y a pas de secret, mais il y en a tellement que ça va être difficile de choisir, mais ça va bien évidemment se tourner autour de Rachmaninov, Dvorak, Tchaïkovski, Moussorgski et ça va être pour nous aussi très important comme programme, car Daniel est d'origine hollandaise mais russe aussi, et moi un petit bout de Russie, qui font que dès qu'on chante russe, malgré la nostalgie et la tragédie de ces âmes slaves, ça nous parle, ça nous chante, ça nous vraiment on malheureusement on a le cœur qui saigne à chaque fois qu'on entend ce genre de musique, parce que c'est le but finalement. Et ce sont des mélodies qui réchauffent l'âme malgré la tristesse et la nostalgie latente de A à Z dans ce genre de partition.
Quels sont les concerts actuels qui vous impressionnent ? Est-ce que vous écoutez beaucoup de...
J'écoute énormément. Je veux pas m'inspirer. Je m'inspire de leurs interprétations dans les œuvres pour pouvoir découvrir plusieurs images différentes de l'œuvre. Mais j'ai envie, bien évidemment, d'avoir ma propre personnalité, mon timbre et mon interprétation. Il y en a malheureusement beaucoup. Alors, bien évidemment, inévitablement, Maria Callas est au sommet en tant qu'interprète tragédienne. Cette vie tragique, complètement dissolue, mais de A à Z, de sa tendre enfance jusqu'à la fin de ses jours. qui fait qu'on voilà, dès qu'on entend le premier son, on aime ou on n'aime pas son timbre. Là n'est pas du tout la question. On sait qu'il y a quelque chose derrière qui est tellement tragique et tellement lourd. Donc c'est pour ça que je veux attendre un tout petit peu dans ma vie la tragédie. Sinon, dans les couleurs, les couleurs chaudes, une qui me perturbe beaucoup, c'est Montserrat Caballé. Parce que je trouve que la jeunesse vocale éternelle qu'elle émane encore aujourd'hui quand on l'entend à son âge est exceptionnelle. La justesse de l'interprétation de la partition est formidable. Et puis la sensualité qu'elle y met, pour moi, est absolument époustouflante. Et puis sinon, il y a Anna de Trepko actuellement qui est tout. C'est-à-dire qu'elle est aussi belle qu'elle chante bien, qu'elle techniquement est vraiment très très précise et avec un très très large répertoire. Et cette fraîcheur qu'elle a éternelle malgré son vaste répertoire qui fait qu'on peut l'entendre dans Traviata et Demain et on est en larmes. Et puis à côté de ça, dans une mélodie délicieuse des chants folkloriques de Dvorak et qui est aussi ravissante. Il y a incontestablement Nathalie Dessay qui est pour nous, je pense, un modèle de carrière, de persévérance, d'hygiène de vie, de malgré tout, on continue à garder finalement un ligne rouge malgré les critiques qui peuvent bien évidemment régulièrement vouloir nous accabler de tous les défauts du monde. Roberto Alagna, c'est exactement la même chose. Sa carrière est admirable. Aujourd'hui, on l'écoute au Metropolitan de New York, c'est exceptionnel. Et malgré tout, il en a essuyé, bien évidemment, et des critiques avec des choix de répertoire qu'il a fait qui n'ont pas forcément été unanimes, des choix d'interprétation aussi, et puis des passages à vide aussi. Et malgré tout, et malgré cette sphère dans laquelle ces personnes-là essayent de survivre, il reste humain et c'est comme ça.
Des voix hors de l'art lyrique qui vous touchent, qui vous...
Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, des voix de jazz comme Diana Krall, qui sont pour moi du velours vraiment pur. Après, jusque même à la variété. Alors, il y a une voix qui me touche profondément, c'est celle d'Ella Fitzgerald. Je reste un petit peu dans le jazz. Après, c'est parce que ça me touche personnellement, parce que j'aime sa manière d'interpréter, j'ai aimé sa vie, j'aime son timbre, j'aime sa délicatesse, malgré son côté un peu rauque et un peu robuste. Sinon, dans la variété, il y a aussi un chanteur que j'adore, c'est Raoul Midon, qui, encore une fois, voilà, ce sont des chanteurs qui ont des voix très chaudes et très, très veloutées qui me touchent. Kezia Jones, bien évidemment. Ensuite, dans le côté soul, il y a James Brown qui restera pour moi l'éternel soulman. Et puis, il y en a énormément. Après,
bien éclectique aussi dans vos...
Aussi, j'essaye de continuer, bien évidemment, à découvrir et de l'actualité et puis à découvrir aussi des choses anciennes. Mais j'ai été, malgré l'éducation que j'ai reçue par des personnes d'une autre génération que celle de mes parents... Je n'ai pas que des amis musiciens classiques, donc de ce fait, ma vie est un melting pot quand même d'actualité. J'ai que ce soit dans l'art, que ce soit dans la peinture, que ce soit dans toutes ces découvertes de cultures actuelles, j'essaye bien évidemment de... Je ne veux pas dire de rester à la page, mais tout ce qui arrive aujourd'hui médiatiquement, si on l'aime, on continue à l'aimer, voilà.
Donc on pourra goûter à une partie de ce melting pot en écoutant donc Yambo qui vient de sortir chez Lyrinx avec Daniel Weyenberg au piano. Merci Yann Aboukov.
Merci à vous.
Cobuzz.com Rencontre par Marc Zisman.